Dans Marc 5, 21-43, je vais lire, le texte sera affiché, je vais lire pour nous. Dans Marc 5, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. Ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alors il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Prions avant l'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour Jésus que nous voyons décrit dans ce passage. Merci pour, comme mon frère disait tout à l'heure, ce que Jésus est le roi. Il est le roi de l'univers. Cependant, il a vécu sur la terre comme un simple homme. Il a aimé les personnes. Il a passé du temps avec les personnes. Et nous pouvons avoir ce récit aujourd'hui qui nous parle de sa vie. Et c'est pas par ces paroles que nous pouvons avoir la foi, par ces paroles que nous pouvons être sauvés. Père, nous te remercions pour cela. Père, bénis-nous durant ce moment. Révèle-nous qui est Christ. Révèle-nous un peu plus de sa personne. Père, bénis-nous par ta parole. Sanctifie-nous par elle. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans une série, dans notre série des rencontres de Jésus. Aujourd'hui, c'est un peu du deux en un. En fait, le texte nous parle de la rencontre de Jésus avec Jairus. Jairus qui nous est présenté comme un chef de la synagogue. Donc la synagogue, c'est l'endroit où les Juifs se rassemblaient pour prier. Donc il y avait le grand temple à Jérusalem, mais dans les petites villes, et même à Jérusalem, il y avait plusieurs synagogues. C'était des endroits plus petits où les Juifs pouvaient prier, lire la Torah, l'Ancien Testament. Mais pendant que Jésus va chez Jaïrus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une autre rencontre sur le chemin. C'est une femme qui vient, on nous dit par derrière, parce qu'elle est très malade. Et elle se dit, il faut juste qu'elle touche Jésus. Elle veut pas plus, juste le toucher. Les deux histoires, les deux rencontres, donc l'histoire de Jaïrus et la femme, on ne nous dit pas le nom, la femme à la perte de sang, on va l'appeler. Les deux histoires ont quelque chose en commun, c'est que les deux sont désespérés. Ils sont dans le désespoir et la peur. Jaïrus est désespéré parce que sa fille, sa petite fille est sur le point de mourir. Et la femme est désespérée parce qu'elle est probablement sur le point de mourir. On dit qu'elle est malade depuis 12 ans. Elle a souffert dans les mains des médecins et ça n'a fait que s'empirer. Pendant 12 ans, elle a perdu du sang tout le temps. Et donc elle est désespérée, elle est prête là à toucher Jésus parce que c'est son dernier espoir. Mais les deux histoires ont aussi une autre chose en commun, c'est qu'ils ont la foi en Jésus. Ils croient que Jésus peut restaurer la vie de la petite fille pour Jaïrus et sa propre vie pour la femme. Et comment on l'a vu, comment on l'a lu, et comment on va le revoir, Jésus va honorer leur foi. Il va guérir ces personnes. Mais cette histoire nous montre aussi quelque chose de particulier sur Jésus, qu'on voit de manière particulière ici, qui n'est pas forcément dit comme ça dans les autres miracles. C'est que la force qui guérit vient de Jésus lui-même. On voit au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. On apprend ici que le miracle de guérison, c'est pas juste quelque chose, Jésus qui fait quelque chose d'objectif. Comme un médecin qui guérit un malade, il lui donne des médicaments, il prend pas quelque chose en lui pour lui donner, sauf s'il lui fait un don de sang par exemple, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la guérison que Jésus opère, c'est une force qui vient de lui. C'est de là que vient la restauration de la vie dans la femme. Et puis là, pour le deuxième miracle, on voit que Jésus a touché la petite fille avant de lui dire de se lever. Donc c'est pour ça que j'ai proposé comme titre de ce message, Jésus est la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré, pour moi, il y a un principe dans la nature et un principe dans l'univers, c'est que toute chose a besoin d'énergie. Il n'y a rien qui fonctionne sans avoir une énergie. S'il y a une ampoule qui donne la lumière, c'est qu'il y a une énergie derrière, c'est qu'ils sont abonnés à EDF ou à Engie, donc ça donne l'énergie. S'il y a une voiture qui roule, c'est qu'il y a du carburant ou de l'électricité. Il faut toujours une énergie. Pour les végétaux, ils ont besoin de l'énergie qui vient du sol, de l'énergie qui vient de la lumière. Nous-mêmes, on a besoin d'énergie, de ce qu'on mange, etc. Et donc, on a toujours besoin d'une énergie. Mais ce qu'on voit en général dans la Bible, c'est que ce qui donne l'énergie à toute chose, ça vient de Dieu et de Jésus. Dans Acte 17, l'apôtre Paul va dire, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes comme, on puise toute notre source de subsistance, notre être même en Dieu et en Jésus qui est Dieu, le Fils. Donc je nous propose de parcourir cette histoire, verset par verset. Et puis de voir quelques implications qu'on peut tirer de ce qu'on va voir ici. Donc d'abord, on verra que on va voir la femme qui a été guérie après avoir touché Jésus. Après, on va voir la petite fille, la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue, qui a été guérie parce que Jésus l'a touchée. Donc au verset 21, pour parcourir, au verset 21, on dit Jésus, dans la barque, gagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Donc, j'ai trouvé peut-être, enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant de rappeler un peu la carte. Donc, là, on a Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. On a Nazareth, là où Jésus est né. Et si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait du démoniaque de Gadara, où Jésus avait dû traverser la mer de Galilée. Donc, c'était plutôt là, vers la droite, dans la Décapole, un peu au-dessus. Et beaucoup de la vie de Jésus s'est passée à Capernaum. Parce que la plupart de ses disciples étaient des pécheurs. Donc, ils vivaient. Du côté de la Décapole, il y a beaucoup de non-juifs. Mais du côté de Capernaum, il y avait beaucoup de juifs. C'était une ville très marchande. Il y avait notamment les marchands, les vendeurs de poissons. Et les pécheurs, donc beaucoup de pécheurs vivaient là. Donc, c'est possible, on ne nous précise pas de quelle ville était Jaïrus. C'est possible que donc Jésus soit allé à Gadara, donc vers la Décapole. Et comme on avait vu, ils ont chassé parce qu'il avait chassé un démoniaque. Et donc ils ont eu peur, ils l'ont renvoyé. Et donc là, Jésus reprend le bateau et il retourne de l'autre côté. Donc peut-être, probablement, vers Capernaum. Et donc on dit, dès qu'il arrive, dès que leur bateau arrive, il y a une grande foule. Tout le temps, il y avait des gens qui suivaient Jésus. Il avait multiplié parce qu'il faisait des miracles. Il multipliait le pain, les gens mangeaient. Donc, les gens étaient toujours en alerte pour savoir où est Jésus, où est Jésus. Et comme on l'a vu la dernière fois, à chaque fois, il disait, ne dis à personne parce qu'il voulait pouvoir circuler. Mais quand les gens savaient où il était, ils s'amassaient. Et Jésus était pressé par la foule, comme on l'a vu ici. Donc, peut-être là, les pêcheurs l'ont vu revenir et ils ont alerté tout le monde. Donc, dès qu'il arrive sur le continent, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. On dit dès qu'il arrive, une foule s'assemble près de lui. Mais pendant qu'il est là, on dit au verset 22, un des chefs de la synagogue, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Alors, donc, si on lit l'évangile de Marc dès le début, on voit que Jésus allait régulièrement à la synagogue. Donc, peut-être qu'il était déjà allé dans la synagogue où Jaïrus était le chef. Donc, peut-être Jaïrus le connaissait. Peut-être que Jésus et Jaïrus se connaissaient. Et si vous regardez aussi dans le début de Marc, même dans la synagogue, Jésus avait fait des miracles. Il avait guéri la main d'un lépreux, de quelqu'un qui avait la main sèche, il avait chassé un démoniaque. Donc Jaïrus entend que Jésus est là, il sait que sa fille est malade, et on dit il court se jeter à ses pieds. On ne sait pas si Jaïrus était un homme pieux, souvent les chefs religieux étaient hostiles vis-à-vis de Jésus. Mais en tout cas, même s'il était hostile, là sa fille est sur le point de mourir, il sait que cet homme fait des miracles, cet homme chasse les démons, cet homme a une puissance. Il vient se jeter à ses pieds, comme pour le supplier de dire, s'il te plaît, viens sauver ma fille. On le dit au verset 23, lui adressant une instante prière, ma fille à l'extrémité, viens, impose-lui la main, et afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et malgré toute la foule qui le presse, Jésus est capable de prendre le temps pour chaque personne. Il y a toute cette foule, et on ne sait pas comment, peut-être par respect pour le chef de la synagogue, parce que c'est un chef religieux, les Juifs avaient beaucoup de respect pour leur chef religieux, peut-être qu'il a pu arriver jusqu'à Jésus, peut-être qu'ils l'ont laissé passer, et avec tout ça, Jésus prend le temps de l'écouter, non seulement de l'écouter, mais de le suivre jusqu'à chez lui. Et puis on dit au verset 24, Jésus s'en alla avec lui, et avec tout ça, la foule ne le lâche pas, on dit une grande foule le suivait et le pressait. Et puis on arrive au verset 25, où on fait la rencontre de la dame à la perte de sang. On dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, j'ai essayé de regarder, donc il s'agit probablement d'un dysfonctionnement menstruel. Et je me suis dit, de quelle maladie pourrait s'agir? Bon, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer. Mais j'ai vu que il peut y avoir des ménorragies. Ou des métrorragies. Bon, je vais pas parler. Bon, j'ai vu Papa Michel qui a hoché la tête comme ça. Donc, il y a un expert, on pourra lui demander après. Donc, c'est en gros des dysfonctionnements qui font qu'une femme perd anormalement son sang. Mais, et puis, Papa Michel a hoché pour dire qu'il connaît. Mais dans ce cas, on dit que les médecins n'ont rien pu faire. On dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait prouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt allée en empirant. Son état est maintenant grave. Elle est peut-être mourante. Et on dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Non seulement elle est malade, mais elle est aussi maintenant pauvre. Elle a dépensé toutes ses ressources financières. Comme on disait, elle est dans le désespoir. Elle est à l'extrémité, elle aussi. Et en lisant juste cette parole, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça m'a fait penser un peu. C'est comme une parabole de la vie. Souvent, on dépense beaucoup de choses pour ce que Jésus peut donner gratuitement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et puis, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Peut-être qu'elle avait honte. Peut-être qu'elle voulait pas venir dire à Jésus, comme Jaïrus est venu dire, ma fille est malade, viens la sauver. Peut-être qu'elle ne voulait pas dire, j'ai ce dysfonctionnement hormonal, sauve-moi. Peut-être que ça allait être une honte pour elle. Donc on dit, elle se cache, elle se dissimule dans la foule, elle vient par derrière. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. On voit que c'est aussi une femme résolue. C'est comme si dès qu'elle a entendu Jésus, que Jésus était là, elle s'est dit, aujourd'hui, je serai guérie. Aujourd'hui, je vais toucher ses vêtements. Mais elle a aussi décidé de ne pas être reconnue, elle ne veut pas être affichée. Et au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Dès qu'elle touche Jésus, sa perte de sang s'arrête, elle est guérie. Comment c'est possible de juste de toucher Jésus et d'être guérie? C'est parce qu'il y a une force qui sort de Jésus et qui l'a guérie. Comment c'est ça au verset 30? Jésus connut qu'une force était sortie de lui. Donc c'est qui se donne l'énergie qui pouvait lui redonner la vie, lui redonner la santé. C'est comme si elle s'était connectée à la source de l'énergie, à la source de la vie. Et là, il y a une réaction de Jésus qui interpelle les disciples, que les disciples trouvent bizarre, on peut dire. Et se tournant au milieu de la foule, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Et j'ai l'impression qu'ils étaient en train d'aller chez le. Ils étaient en chemin, ils cheminaient pour aller chez le chef de la synagogue. Et là, Jésus arrête tout le monde. Dit, qui m'a touché? Peut-être qu'il est entouré de beaucoup de personnes. Et je crois que toute personne n'ose lui dire, tout le monde t'a touché. Et il y a juste un disciple qui lui dit, Seigneur, que tu dis pas là? Et donc, ce disciple lui dit, Seigneur, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et puis, mais on dit, Jésus regardait autour de lui, cherchait celle qui avait fait ça. Alors ici, moi ça m'interroge, je sais pas si ça vous interroge, parce qu'on sait que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, normalement il est omniscient, il sait tout. Est-ce qu'il sait que c'est la femme qui l'a touché et puis il veut qu'elle parle elle-même ou est-ce qu'il ne sait pas, est-ce qu'il cherche sincèrement? Je n'ai pas la réponse parce qu'on sait aussi que même si Jésus était Dieu avant de venir sur terre, qu'il est toujours Dieu quand il est sur terre, il avait limité. On dit il a revêtu l'humanité. Pendant un moment, il s'est soumis à Dieu. Pendant un moment, il était. Normalement, Jésus est autosuffisant. Aujourd'hui, dans son état actuel dans le ciel, Jésus n'a pas besoin de quelque chose pour vivre. Quand on dit qu'il est autosuffisant, il n'a pas besoin de manger. Il n'a besoin de rien d'extérieur à lui. Mais Jésus, dans son humanité, avait faim. Il avait besoin de se reposer. Il avait besoin de manger. Il dépendait de Dieu dans beaucoup d'aspects. Peut-être qu'ici, c'est le cas. Peut-être qu'ici, il cherche vraiment la personne, que la personne parle. Mais on dit, la femme était effrayée. Quand Jésus s'est arrêté, peut-être qu'il a. Parfois, Jésus parle avec autorité, les gens s'arrêtent. Si vous vous souvenez, il y a un épisode où les soldats romains viennent arrêter Jésus. Il leur dit, c'est moi. Et tous y tombent. Ils tombent par terre parce que parfois, Jésus, justement, Jésus parle avec son autorité divine. Les hommes tremblent. Peut-être il a eu une parole comme ça pour que toute la foule s'arrête. Il dit, qui m'a touché? On dit, la femme est effrayée parce qu'elle sait ce qui s'est passé. On dit pourquoi la femme était effrayée, peut-être parce qu'elle avait pas été, elle se dit que Jésus va lui reprocher d'avoir été un peu, d'être passée, de s'être faufilée plutôt que d'être transparente. Peut-être qu'elle voit comme si elle a volé une bénédiction, on dit qu'elle est effrayée. Et puis elle vient se jeter à ses pieds. On voit la même posture d'humiliation, d'humilité que Jaïrus avait. Elle vient se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ça ne se fait pas de prendre une guérison comme ça sans demander. Non, c'est pas ça. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus n'a pas besoin qu'elle s'explique longtemps. Il comprend sa honte. Il comprend ce qu'elle vivait. Et non seulement elle venait chercher sa guérison physique, il lui dit, parce que tu as cru en moi, parce que tu as connu que je suis Dieu, que je peux faire ça, ton âme est sauvée. Elle venait chercher la guérison de son corps. Elle a trouvé le salut de son âme. Et c'est la définition même de la foi. Comme on dit, on est sauvé par la foi. On est sauvé quand on reconnaît et qu'on fait ce que Jésus est Seigneur, est le roi, comme on a chanté tout à l'heure. Et c'est seulement par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit avait déjà convaincu que cette femme, que cet homme est le Fils de Dieu, cet homme est le roi de l'univers. Donc cette femme repart sauvée. Et ensuite, Marc continue avec l'histoire de Jaïrus et de sa petite fille. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Donc on voit qu'il appelle le maître, donc probablement ils étaient déjà familiers avec Jésus. Et on sait aussi qu'à la synagogue, enfin un des rôles des chefs de la synagogue, c'était justement de désigner celui qui allait faire la lecture, parce que c'était ouvert et beaucoup de personnes pouvaient enseigner. Et on a des épisodes où Jésus arrivait et on l'a laissé enseigner. Donc les gens connaissaient déjà que c'était un enseignant, que c'était un maître. On dit, pourquoi importuner davantage le maître? Et lui disent, ta fille est morte. Pareil, justement, encore fait penser au médecin. Parfois, quand quelqu'un est souffrant, à un moment, le médecin a la lourde responsabilité d'annoncer la mauvaise nouvelle. Il dit, il n'y a plus d'espoir. On a tout fait pour le guérir. Il y avait encore de l'espoir tant que la personne était vivante. Mais là, il n'y a plus d'espoir. La personne est décédée. Ça, humainement, quand la personne est décédée, il n'y a plus rien à faire. Et c'est ce que les gens viennent dire à Jairus. Elle est décédée, il n'y a plus rien à faire. On dit au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, crois seulement. Nous, dans la logique humaine, si quelqu'un est décédé, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus n'a pas la logique humaine, ne répond pas à la logique humaine. Encore une fois, comme on voyait, Jésus est roi, n'est pas seulement roi des vivants, il est aussi roi des morts. La Bible ne dit pas beaucoup de choses sur ce que les morts font en ce moment, mais il y a une place qu'on appelle le séjour des morts. Et Jésus a le total contrôle. Nous, on peut agir que dans le monde des vivants, mais Jésus peut agir dans les deux mondes, dans le monde des vivants, dans le monde spirituel, comme on l'a vu avec lorsqu'il a chassé les démons, et même dans le monde des morts. Donc pour lui, vivant ou mort, il n'y a pas de problème pour Jésus. Il dit sans tenir compte de ses paroles. Ne crains pas, crois seulement, il le dit. Et puis on dit, il ne permit à personne de les accompagner, au verset 37, ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Bon, en général, dans plus, il y a d'autres situations comme ça où Jésus est entouré juste des trois disciples. Peut-être c'est pour leur transmettre, peut-être c'est pour. Ils forment déjà les prochains leaders. Comme on sait, Pierre sera l'un des leaders de l'église après, Jacques aussi, et Jean aussi. Donc, verset 35, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Donc, ça montre encore que le chef de la synagogue, qui était peut-être un homme connu dans la ville, c'était peut-être un homme aimé, populaire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire le deuil. Ils ont commencé le rituel de deuil, ils sont en train de pleurer. Et quand Jésus entre, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Moi, cette phrase m'a toujours un peu intrigué. Est-ce que Jésus a menti? On dirait qu'elle est vraiment morte. Mais encore une fois, comme pour Jésus, ça n'a pas de différence. Quelqu'un qui est mort pour Jésus, quelqu'un qui dort, ça n'a pas de différence. Parce que juste, et comme on l'a vu, il a réveillé. Donc pour lui, de son point de vue, quelqu'un qui est décédé, c'est comme quelqu'un qui est mort parce qu'il peut réveiller la personne. Et puis au verset 40, on le voit un peu comme quelqu'un qui délire. On dit, mais on sait qu'elle est morte. Et on dit, il se moquait de lui. Parce que Jésus est mort. J'ai trouvé beaucoup d'encouragement dans cette phrase, il se moquait de lui. Aujourd'hui, souvent, en tant que chrétien, si on affirme notre foi en Jésus, si on affirme que Jésus est le seul chemin, si on affirme qu'on croit vraiment qu'il est ressuscité, les gens vont se moquer. Mais ce n'est pas nouveau. Jésus même, quand il était là, les gens se moquaient de lui. Et ces personnes ont vu les miracles qu'il a fait. Il vient de guérir une femme qui avait une perte de sang. Ils ont vu Jésus chasser des démons. Ils ont vu Jésus multiplier le pain pour que 5 000 personnes puissent manger. Et ils se moquent encore de Jésus. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire vu ce qu'il a déjà fait? Et la réponse, on dit, ayant fait sortir tout le monde. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si des gens se moquaient de vous? Si tu sais que tu sais faire une chose et que les gens se moquent de toi en disant tu peux pas faire. Voilà. Je serais tenté de dire, vous pensez que je ne peux pas faire ça? Restez là, vous allez voir. Mais Jésus en dit, il est fait sortir. Et ça, c'est un schéma qu'on voit souvent dans la parole de Dieu. Ceux qui ont la foi en Jésus, Jésus leur montre davantage. Mais ceux qui doutent, ceux qui se moquent de Jésus, comme punition, les aveugle davantage. C'est dangereux de se moquer de Jésus. Donc on dit, il fait sortir tout le monde, il prie avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Ça m'a fait penser aussi, déjà dans Marc, c'était arrivé, un jour Jésus parlait en parabole, c'était la parabole de la graine de semence qui tombe dans les différentes terres. Et les disciples lui ont dit, pourquoi tu parles en parabole? Il dit, tout se passe en parabole pour qu'en voyant, il ne voit pas. Dieu peut un châtiment, une sanction de Dieu, c'est de se cacher. Je trouve ça grave. Parce que la meilleure chose, c'est connaître Dieu. Mais quand Dieu veut punir un homme, il peut faire que cet homme ne le connaisse pas. Mais le père et la mère qui ont eu foi en Jésus, ils les gardent. Et comme ils ont eu la foi, c'est-à-dire ils ont cru en Jésus sans voir, Jésus va maintenant leur faire voir. Verset 41, il saisit la fille par la main et dit, Talita kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Jésus lui touche la main, il lui parle et la fille se lève. On dit, aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Marc dit aussitôt, Marc rappelle que ce n'était pas quelque chose que Jésus a essayé plusieurs fois. Il a juste dit une parole. Et aussitôt, la fille s'est levée. Je me souviens, ça m'a fait penser à il y a un jour, je ne sais pas si c'était le lépreux ou un autre malade qui a dit à Jésus, dis une parole et je serai guéri. Il y a eu des personnes qui ont cette foi, qui étaient poussées par le Saint-Esprit, qui ont vu la puissance de Jésus, qui ont vu qu'il était le roi tout-puissant, comme Gaël disait. Et puis on dit, elle se lève et elle se met à marcher. Qu'elle se lève, elle n'est pas convalescente, elle n'est pas un peu guérie, mais qu'elle se lève, elle est pleine de santé. Donc la parole de Jésus l'a complètement restaurée. Et puis à la fin du verset 42, ils furent dans un grand étonnement. Ils avaient cru sans voir, maintenant ce qu'ils voient les émerveille. Ils voient cette fille qui était malade et maintenant morte. Et elle se lève et elle se met à marcher. Elle est pleine de vie, pleine de santé. Même eux ne savaient pas à quel point Jésus était puissant. Ça nous rappelle que même avec une petite foi, même si on ne sait pas à quel point Dieu est puissant, même avec une petite foi, Dieu peut honorer une petite foi et nous faire voir. Il peut faire bien au-delà. On n'est pas sauvé parce qu'on a une grande foi, mais on est sauvé parce qu'on a, même avec une petite foi, un grand sauveur, un grand Seigneur. Puis le verset 43, aussi toujours intriguant, on voit toujours des choses intriguantes dans Jésus. Il leur dit, il leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc même si la fille est pleine de sang, pleine de vie, elle est revenue complètement à la vie, elle est capable de marcher, elle n'est pas convalescente, elle est quand même restée longtemps sans manger. Donc, et puis elle est revenue d'une vie normale. Jésus se soucie de ça et dit, donnez-lui à manger, qu'elle est restée longtemps sans manger. Mais on dit, il leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Pourquoi? Voilà, ce qui va faire que les gens croient en Jésus. Mais une chose que je nous suggère, c'est que peut-être que ce que Jésus faisait n'avait pas vocation à être une norme. Ce que Jésus faisait à ce moment, les miracles de Jésus n'étaient pas censés devenir la norme. Un miracle, c'est par définition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez si Jésus était là, que tout le monde allait maintenant pouvait venir avec son mort. Mon oncle est mort, ressuscite-le. Ma tante est morte, ressuscite-la. On est des hommes, c'est le cours de la vie, on va mourir. Donc Jésus ne venait pas juste changer comment toutes les choses allaient fonctionner. Mais Jésus voulait révéler sa gloire, révéler sa puissance. Le but principal, c'était pas de ressusciter tous les morts de Capernaum, mais le but principal, c'était que les gens croient. Et comme Jésus disait au celui qui avait été possédé, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Maintenant, il pouvait juste aller parler du Seigneur. On sait qu'il est Dieu, etc. Donc ça, c'est pour le parcours du texte. Et trois implications que je nous suggère qu'on peut tirer de ce texte pour nous, pour nos vies. La première implication, la première chose que ce texte nous rappelle, c'est que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est rapproché de l'humanité en Jésus. En fait, quand je lisais les histoires de Marc, dans les rencontres de Jésus, on a vu plusieurs rencontres qui venaient du livre de Marc. Je me disais, mais c'est quoi le dénominateur commun? C'est quoi, pourquoi raconter toutes ces histoires? Et en général, quand on se pose une question comme ça, on peut aller au début du livre pour voir là où l'auteur veut nous amener. Et puis dans Marc 1, on dit d'abord, Jean parut baptisant dans les déserts, prêchant au verset 4, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, Marc nous annonce déjà qu'il y a Jean qui annonce la repentance, que les personnes peuvent avoir le pardon des péchés. Et puis au verset 14, et Jean-Baptiste aussi annonçait la venue de Jésus. Et puis au verset 14, quand Jésus arrive, le message c'est, au verset 15 plutôt, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, croyez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tous les miracles que Jésus faisait, c'était pour nous convaincre que lui, il est le porteur du royaume de Dieu, ou bien il est la porte du royaume de Dieu. Et en guérissant les maladies, il montrait que le royaume de Dieu, c'est un endroit où il n'y aura plus de maladies. En ressuscitant les morts, il montrait que le royaume de Dieu, c'est un endroit où il n'y aura plus la mort. La mort sera engloutie par la vie, comme on voit par ailleurs. Donc, une des choses qu'on peut tirer, c'est comme les Jaïrus, la femme atteinte de la peur de sang, c'est croire que Jésus est le roi qui dit être et que son royaume est proche. Il a ouvert, aujourd'hui, nous avons pas la, en est, en, pas la foi en lui et par le pardon de nos péchés, on peut être dans ce royaume qui va venir. Toutes les histoires sur Jésus nous montrent que ce qu'il dit qui va arriver bientôt est vrai. Je regardais dans Apocalypse 1, où on parle du royaume de Dieu qui est venu, donc ce monde est passé, et maintenant le royaume de Dieu qui ne va jamais passer arrive. C'est dans l'apôtre Jean qui voit une partie de la Jérusalem céleste. On dit au milieu, il dit au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Alors, je ne veux pas spéculer sur tous les symboles, mais ce qu'on comprend ici, c'est que il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de tout ce qui est malheur, tout ce qui fait, on dit par ailleurs qu'il n'y aura plus de larmes. Donc, la source sera connectée à la source de la vie même. Et tout ce que Jésus fait est une illustration de ce royaume. Une deuxième implication qu'on peut trouver dans ce texte, c'est que celui qui meurt avec Jésus dort. Alors, petit disclaimer, j'ai pas envie de mourir. J'aimerais vivre le plus longtemps comme nous tous. Mais ce qu'on apprend dans ce texte, de toute façon, sur Terre, on a un passage. Pour moi, je crois que la Terre, ce n'est même pas le commencement. Ça commence vraiment après la mort. Mais celui qui va mourir en Jésus dort. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, j'entendis du ciel une voix qui disait: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus, lorsqu'ils meurent, Dieu les considère heureux. Parce qu'ils entrent dans leur vraie vie, on peut dire. L'apôtre Paul disait: quand Jésus va paraître, notre vraie vie va commencer. Sur cette terre, on est juste comme dans un sas en attendant ce qui va arriver. Dans l'éternité, personne, on ne sera, on va pas sortir de l'éternité, ce sera éternel comme on l'a dit. Ou je pense encore à Daniel 12, au verset 13, l'ange qui parle à Daniel lui dit: toi, marche vers ta fin, tu te reposeras. C'est-à-dire, tu vas mourir un jour, et à la fin, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Troisième implication que je trouve qu'on peut tirer de ce texte, c'est l'exemple de la foi de Jaïrus et de la femme à la perte de sang. Comme on a vu, il y a deux choses qui ont poussé Jaïrus et la femme, et cette femme, à aller vers Jésus. D'abord, c'était leur désespoir, le fait qu'ils n'avaient plus aucune solution. Mais il y a aussi le fait qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Moi, ce texte nous rappelle qu'il faut qu'on soit informé, qu'on continue de demeurer dans la parole de Dieu pour connaître ce que Jésus fait, pour connaître ce que la Bible dit de qui il est. Et c'est comme ça que notre foi va être renforcée. Notre foi en Jésus va être renforcée. Je me suis dit, imaginez que ces deux avaient eu ces problèmes, que Jaïrus avait eu sa femme qui était sur le point de mourir, mais qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Enfin, sa fille serait probablement décédée, mais ou alors la femme à la perte de sang. Imaginez qu'elle avait jamais eu sa, elle avait eu sa maladie, mais elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Elle serait probablement décédée, mais pire, elle n'aurait pas été sauvée. La foi vient de ce qu'on entend, mais parce qu'elle a entendu parler de Jésus, dans son moment de désespoir, elle a pu mettre sa foi en lui. C'est un rappel non seulement pour nous de rester informés de tout ce que la Bible dit de Jésus. Pour avoir la foi au moment où on en aura besoin. Mais pour moi, c'est aussi un encouragement de parler de Jésus aux gens. Peut-être qu'ils ne vont pas croire sur le coup, mais un jour, peut-être, un jour, quand ils seront dans ce désespoir, peut-être qu'ils vont crier vers Jésus. Et même si c'est parce qu'on a des problèmes qu'on se tourne vers Jésus, il va nous sauver. Dieu dit dans sa parole: appelle-moi quand tu es dans la détresse, appelle-moi au jour de la détresse, je vais te sauver. Mais il y a aussi une autre chose, un autre scénario. Imaginez que Jaïrus et la femme avaient vu ces miracles, mais eux-mêmes n'avaient jamais eu de difficultés. Peut-être qu'il n'aurait jamais ressenti ce besoin de venir à Jésus. Ça me fait penser à la phrase où Jésus avait dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le riche ne sent jamais son désespoir, ne sent jamais sa misère. Et ça peut être un problème de ne pas avoir cette foi d'enfance, de reconnaître que là, j'ai besoin d'un sauveur. Donc ils ont eu les deux. Ils avaient entendu parler de Jésus, ils ont pu mettre leur foi en lui. Ils avaient ce désespoir qui leur a permis d'avoir cette foi d'enfant dépendante, de dire j'ai besoin d'un sauveur. Ma prière en préparant ce message, c'est que Dieu nous donne cette foi, qu'il nous donne de continuer à venir à lui, dépendre de lui. Il est la source de la vie. En étant connecté à Jésus, on est comme connecté à la source d'énergie spirituelle qui donne la vie, qui donne la vraie vie. Jésus disait à ses disciples quelque part, je suis le cep, vous êtes les sarments, je suis le tronc, vous êtes les branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il est la source de la vie. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus-Christ. Merci pour la révélation de sa puissance, de sa souveraineté sur toutes choses, dans le monde des vivants comme dans le monde des morts, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Père, je te supplie pour moi-même, je te supplie pour chaque personne ici, que tu nous convainques de cette autorité, de cette puissance qui est celle du Fils de Dieu, qui a reçu tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Merci aussi parce que c'est une bonne nouvelle. Aucun autre homme ne mériterait un tel pouvoir. Merci parce que nous avons un roi compatissant, un roi qui veut sauver, un roi qui a de la compassion pour ceux qui souffrent, un roi qui souffre avec ceux qui souffrent, un roi qui est capable de déposer sa couronne pour venir sauver les pécheurs de la misère, de la destruction. Un roi qui se révèle, car il aurait pu, dans notre rébellion, nous laisser enfermés dans notre ignorance. Merci parce que par ton esprit, nous avons la révélation de qui est Jésus. Père, s'il te plaît, veuille nous bénir et nous rend à grandir dans cette révélation. Aide-nous à grandir dans la foi en Jésus. Aide-nous à grandir dans l'espérance du royaume de Dieu qu'il est venu annoncer. Père, nous te supplions, bénis-nous par ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.